Si vous voulez, on va remettre ce moment dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir la liberté d'être encore là, ensemble, à écouter ta parole. Seigneur, nous voulons contempler ce trésor que tu nous as donné. Seigneur, tu es au milieu de nous, alors nous voulons compter sur toi. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions être réceptifs à ce que tu as à dire à chacun. Seigneur, nous voulons nous placer sous l'aspersion de ton sang, pour être complètement purifiés, avoir les regards tournés vers toi, qu'il n'y ait aucun obstacle, pour que nous puissions t'entendre. Seigneur, merci encore de pouvoir te faire confiance pour ces moments. Amen. Alors, il y a un verset qu'on cite presque, je dirais, une fois sur deux, lors de nos cultes ou de nos réunions. C'est un verset que vous connaissez tous et qui est dans Philippiens, au chapitre 2, et le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas un conseil. Il n'y a pas d'autre alternative. Ayez en vous, c'est un ordre. Il n'est pas dit que ce serait mieux si vous aviez les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus. Ou bien, c'est pour demain. Non, c'est ayez. Et on pourrait ajouter maintenant. On est toujours d'accord. Je pense que vous tous ici, comme moi, on est tous d'accord pour que ce soit vrai. Mais dans la réalité des faits, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment une réalité? Et pour voir totalement quels étaient les sentiments ou les pensées, il faudrait lire tout le Nouveau Testament, voire toute la Bible. Mais on va reprendre un passage dans la parole qui nous montre les sentiments du Seigneur Jésus. Alors on va reprendre dans Jean 13, les versets 1 à 17. Donc l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. » Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Là encore, c'est un passage qu'on a lu maintes et maintes fois. Est-ce qu'on peut encore apprendre quelque chose de ce passage? En ce qui me concerne, ben oui. Le Seigneur a dit à ses disciples à la fin de ce passage, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et à Pierre, qui s'offusque de ce que le Seigneur lui lave les pieds, il lui dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Rappelons que pendant ces moments, ce sont les derniers moments de communion du Seigneur avec ses disciples avant d'aller à la croix. Ce sont des moments où l'atmosphère doit être très lourde. Et le Seigneur Jésus, lui, il sait ce qu'il attend. Verset 1, « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » Et il sait par où il va passer. Donc on pourrait penser qu'il a autre chose à faire que de laver les pieds de ses disciples. Mais il nous est dit, Jean 13, 3, on l'a lu, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Le Père a remis toutes choses entre les mains de son Fils, comme s'il lui disait maintenant, mon Fils, c'est toi qui prends tes responsabilités. Je te confie toutes choses, je te confie la suite des événements, tout ce que tu vas souffrir, je ne le ferai pas à ta place. Je n'interviendrai pas comme lorsque je l'ai fait, lorsque j'ai demandé à Abraham de me sacrifier son fils Isaac. Je te laisserai aller jusqu'au bout, jusqu'à te laisser crucifier sur une croix. Je te laisserai porter le terrible poids du péché, de tous les péchés de l'humanité. C'est le prix du rachat de l'homme que je veux racheter. C'est le prix de mon amour pour lui. C'est le prix de ton amour pour ces hommes qui te haïssent. Et que va faire le Seigneur Jésus ? Quelque chose d'étonnant. Ça ne m'avait jamais parlé jusqu'à présent. Au verset 4, il nous est dit « Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. » C'est un passage qui ne m'avait jamais parlé jusqu'à présent. Et pourtant, pourquoi il ôte ses vêtements ? Ce n'est pas une image. Ça s'est réellement passé comme ça. Puisqu'au verset 12, il nous est dit qu'après avoir leur lavé les pieds, il reprend ses vêtements. Pour ne pas salir, en fait, il quitte son vêtement de fils de Dieu, bien qu'il le soit. Il abandonne son statut de maître et seigneur, bien qu'il le soit. Vous m'appelez maître et seigneur, verset 13, et vous dites bien, car je le suis. Il fait cela en prenant la responsabilité de prendre l'habit du serviteur, de celui qui va se mettre aux pieds de ses disciples pour laver leurs pieds sales et de les essuyer. Il assume jusqu'au bout son rôle et il va par la suite remettre ses vêtements. Mais maintenant, le statut est différent. Il montre par là que lui, le maître et seigneur, se fait serviteur jusqu'à la mort. Je ne suis pas venu pour être servi, c'est lui qui le dit, mais pour servir. Donc on va reprendre ces versets, on va les reciter de Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur montre par les faits qu'il s'est dépouillé lui-même. Et lorsque quelques heures plus tard il sera crucifié, il sera dépouillé de ses vêtements. On va même se les partager. Je n'avais jamais compris pourquoi, comme les disciples d'ailleurs, il nous a dit au verset 1 que le Seigneur, au cours de cet épisode, mit le comble à son amour pour eux. Mais en fait, à ce moment, il se dépouille complètement de ce qui pourrait le glorifier pour prendre la position du serviteur humble et parfait pour aller à la croix sans dire un mot. Maintenant, nous avons lu « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dans Philippiens 2, donc, et dans Jean 13, 17, le Seigneur dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Alors, pourvu que, j'ai regardé la définition du Larousse, de ces deux mots. Ça indique la condition nécessaire et suffisante pour que l'action se réalise. Puis il y a une deuxième définition avec le subjonctif dans une phrase exclamative, c'est le cas dans ce passage que nous avons lu. Pourvu que sert à exprimer un souhait nuancé d'inquiétude. Ça me concerne personnellement. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pas seulement si vous le savez, mais si vous les pratiquez. Le savoir, nous le savons tous. Nous l'avons lu, nous le croyons, je le crois avec certitude. Mais la suite est-elle vraie ? Ai-je les sentiments qui sont en Jésus-Christ ? Est-ce que je pratique ce qu'il me dit ? Est-ce que j'ai été reconnu comme étant avec Jésus ? Pour avoir été, mais pour être, avec Jésus. Suis-je prêt à me dépouiller moi-même, à mettre le bleu de travail à la place du costume et de la cravate ? Le Seigneur Jésus, lui-même, a ôté ses vêtements. Et dans la parole, on a un exemple, c'est celui de David. Oint comme roi d'Israël par Samuel, ça c'est le chapitre 17, choisi par Dieu. Et il va être choisi aussi à la cour du roi Saül pour le calmer quand il est possédé d'un esprit, donc pour jouer de la harpe. Donc ça c'est 1 Samuel 17, on l'a dit. C'est une drôle de promotion, extraordinaire. Vous vous rendez compte, il est loin quand il arrive à la cour de Saül pour jouer de la harpe. Alors là, il pourrait dire, hey, ça y est, j'ai été loin comme roi, me voilà introduit à la cour du roi, mon heure est venue. C'est le moment. Eh bien, on va lire dans un verset de 1 Samuel 17 au verset 15. Vous allez voir comment ça se passe. Là encore, on voit que les voix de notre Dieu ne sont pas du tout nos voix, ni ses pensées, nos pensées. 1 Samuel chapitre 17 et le verset 15. Donc il est à la cour de Saül, il joue de la harpe. Au verset 15, il nous a dit « David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. » Voilà. Zut alors. C'est raté. Dieu m'a oint comme roi et me revoilà derrière les moutons. Quelle désillusion, quelle injustice. Mais c'est l'esprit de Christ, le serviteur. Ce sont les sentiments qui étaient en Jésus. En plus, après que David eut tué Goliath, on va en remettre une couche. David va en fait être reconnu à sa juste valeur par Saül. Toujours au chapitre 17. Alors on va lire les versets 54 et 56 du chapitre 17. Donc David vient de tuer Goliath. Versets 54 à 56. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Il ne se rappelle plus qui il est. Il a joué devant lui de l'harpe, il le calmait, il est reparti garder les moutons et il ne sait plus qui il est. Quelle aurait été ma réaction ? Moi qui ai joué de l'harpe devant le roi, il ne me reconnaît même pas. Quelle est ma réaction lorsque je suis ignoré, qu'on ne fait pas attention à moi? Est-ce qu'il m'arrive encore d'être vexé parce qu'on ne fait pas de cas de moi? Ce sont des choses simples, toutes pratiques, mais que le Seigneur permet pour me tester et savoir si Philippe Pasquier est mort pour laisser vivre Jésus. Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui se fait, donc qui transmet ses paroles de la part du Seigneur Jésus. Mais il était comme ça, Paul. Il ne faisait aucun cas de lui-même, il nous a dit. Mais quand même, il faut aussi considérer un tout petit peu mes intérêts. Christ a-t-il considéré les siens? Il s'est dépouillé lui-même. Alors là encore, j'aime bien lire la définition de termes qu'on emploie comme ça, très rapidement. Le terme « dépouillé », c'est la définition de l'Académie française. Alors, il y a quatre définitions. « Mettre à vif », en enlevant la peau. « Écorcher », mettre à nu en enlevant ce qui couvre, dégarnir ce qui orne, priver quelqu'un de ce qui lui appartient, le déposséder. Voilà. Il s'est dépouillé lui-même. C'est ça qu'il a subi. Il a accepté. Ça a été une victime, mais une victime consentante, parce qu'il a voulu faire la volonté du Père. Il a accepté d'être complètement mis à nu, au vu de tous. On l'a même moqué sur la croix. Voilà l'Esprit de Christ. Et voilà ce que le Seigneur nous demande, me demande. Ayez en vous et en toi, en moi, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça va très loin. Voilà le sort réservé aux serviteurs parfaits. Et Hébreux 9, au chapitre donc 9, versets 13 et 14, voilà ce qu'il nous est dit. Hébreux 9, 13, 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Voilà le but. Afin que vous serviez le Dieu vivant, que je serve le Dieu vivant. Le Seigneur a payé le prix pour nous purifier, pour me purifier, pour purifier ma conscience des œuvres mortes. Il a accepté cela volontairement. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et cette fonction, elle m'est réservée, comme elle l'est pour chaque enfant de Dieu. Mais rappelons-nous que tout ce qui a permis cela, ce qui a motivé cela, c'est ce qui nous est dit au verset 1 de Jean 13. Jésus mit le comble à son amour pour eux, pour nous. Et il va en donner la preuve. Les 12 disciples sont assis là, et le Seigneur passe devant chacun. Il en est un dont il nous est dit au verset 2 de chapitre 13 de Jean, que nous avons lu, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » On rappelle que le Seigneur sait toute chose. Il sait qu'il va être livré. Il sait qu'il est trahi par Judas. Verset 10 à 11, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alors, lorsque le Seigneur passe devant Judas, nul doute qu'il va l'ignorer. Il ne va pas lui laver les pieds quand même à lui. Lui, le traître, il ne mérite pas d'être lavé comme les autres. Non. Rien ne se passe comme ça, comme prévu. Pas de discrimination, pas de reproche. Mais un acte d'amour que le Seigneur va renouveler jusqu'à son extrême à Gethsémané. Matthieu 26, on va lire versets 48 à 50 dans l'évangile de Matthieu. Versets 48 à 50. Celui, donc Judas, qui le livrait, leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, Judas dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mon ami, c'est quelque chose d'incroyable. Le Seigneur met en pratique ce qu'il enseigne. Je vous lis les versets 21 et 22 de Proverbe 25. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Devant un traître, devant celui qui le livre, il ne nous est pas dit que le Seigneur met le comble à son amour pour ses disciples, sauf Judas. Non, Judas n'est pas exclu de ce plan d'amour parfait. Et heureusement, imaginez que le Seigneur, comme je l'aurais fait, ait ignoré Judas, qu'il l'ait négligé. Mais ne m'arrive-t-il pas, parfois, de trahir mon Seigneur par un acte, un comportement, une parole ou une pensée ? En contradiction avec ce que me demande le Seigneur, par un péché, appelons-le par son nom. Quelle est la position du Seigneur ? Est-ce pour autant qu'il m'ignore ? Non. Il pardonne de tout son cœur à celui qui se repent, qui revient à lui, puisque lorsqu'un pécheur se repent, il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes. Voilà l'amour du Seigneur, voilà le comble de l'amour. C'est quelque chose de inconcevable, et pourtant il l'a fait. Le père de l'enfant prodigue, en le voyant de loin, revenir vers lui, court et se jette à son cou. Voilà l'amour de Dieu, le comble de l'amour, sans limite. Le Judas que je suis a bénéficié de la grâce, du comble de l'amour du Seigneur Jésus pour moi, en me lavant de mon iniquité. Et combien chacun, nous pouvons encore le remercier d'être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir fait de discrimination, de ne pas avoir dit à toi, t'es trop pécheur pour que je te pardonne. Non. On a encore une preuve sur la croix, le brigand, peut-être un meurtrier, qui a reconnu dans le Seigneur le Sauveur et le Roi. Puisque quand tu entreras dans mon règne, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle promesse! Et là, on voit qu'il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Et combien encore on peut le remercier. Puis encore une chose, c'est la réaction de Pierre. Alors, on est toujours dans Jean 13, et au verset 6 à 8, on va les reprendre. Donc, le Seigneur revient. Donc, il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre, en fait, refuse que son Seigneur soit abaissé à ce point. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ça altérerait l'autorité du Seigneur dans la logique de Pierre. Le supérieur ne doit pas s'abaisser devant l'inférieur. Et on est tous comme ça, c'est normal. Et en refusant ce principe, en fait, celui de la croix, Pierre le refuse aussi pour lui-même. Parce que s'il était à la place de Jésus, ben, il aurait fait pareil. Il n'aurait pas lavé les pieds, mais il aurait dit ça, on doit me laver les pieds à moi. Puis on est tous, naturellement, de cette nature-là. On est comme ça. S'il avait été à la place du Seigneur, il n'aurait pas lavé les pieds de qui que ce soit. Mais Pierre va apprendre à son dépens que les voies du Seigneur sont tout autres. Le chemin de la croix sera aussi le sien. Le besoin d'être lavé de sa propre nature, celle qui l'a conduit à renier son Seigneur, celui à qui il avait affirmé qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Mais ce chemin, il va le prendre. Le Pierre des Actes n'est plus celui des Évangiles. Ses décisions ne seront plus ses propres décisions, mais celles de son Seigneur. C'est plus lui qui va décider. Et il va porter la vie du Seigneur Jésus en lui. Quand il voit le mendiant de la belle porte, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il donne ce qu'il a, c'est-à-dire la vie du Seigneur Jésus. Voilà un témoin complètement changé. Et c'est lui qui dit dans 1 Pierre 4,5 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Pourquoi il dit ça ? Ben parce qu'il l'a vécu. Parce qu'il a besoin, il a eu besoin de s'humilier. Quand il a vu, quand le Seigneur Jésus l'a regardé, après avoir renié son Seigneur, il a pleuré amèrement. Et il devait être penaud quand le Seigneur Jésus lui disait « M'aimes-tu ? Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Mais le Seigneur, à cause de cet amour, va pouvoir lui donner une responsabilité. « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Et c'est ce qu'il va faire. Le Pierre n'est plus le même. La pensée du Seigneur, c'est celle qui nous a dit que Jean-Baptiste a pu dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Voilà le chemin. Et le Seigneur met des tests sur ma route, sur la vôtre, pour que nous prenions cette voie du vrai serviteur, celui qui veut servir avant d'être servi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça va loin, ça va très loin. Et en y réfléchissant, j'ai pu voir que avoir les sentiments du Seigneur, c'est manifester le fruit de l'Esprit, qui sont décrits en Galates 5, 22. Alors je vous les relis. Ces 9 fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, si vous voulez le relire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors comment faire ? Faire tous mes efforts, mais en vain. et arrivé à cette constatation de Romains 7, 18-19, c'est Paul qui parle « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et en relisant tout ça, je me disais, mais de toutes ces vertus qui sont le fruit de l'esprit, on les a lues, hein, ce serait déjà bien si j'en ai une ou deux. Ou bien qu'il y ait un petit peu plus d'amour et moins de haine dans mon cœur. Plus de joie et moins de tristesse. Plus de paix et moins d'angoisse. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Avec le Seigneur, il y a ou il n'y a pas. Le problème, c'est que Christ n'est pas partagé en plusieurs morceaux. Où il vit en moi, et tous les fruits de son esprit sont là. Où il ne vit pas en moi, et il n'y en a aucun. Il n'y aura pas un peu de Christ en colocation avec moi, ce n'est pas possible. Où il sera là, ou il ne sera pas là. Le prix, c'est que pour que Christ vive en moi, bah, il faut que moi je sois mort. C'est aussi simple que ça. Il faut que ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ qui vit en moi. C'est ce qu'a découvert l'apôtre Paul, et c'est ce qu'il a réalisé, ce que le Seigneur a fait en lui. Alors il veut le faire en chacun d'entre nous. Mais si nous voulons manifester les sentiments du Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas manifester le fruit de l'esprit, ils sont les neuf là, ou ils ne sont pas là du tout. On peut faire tous nos efforts, on n'y arrivera pas. Mais on a le chemin, c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous, que le Seigneur Jésus vive en nous. Et puis, je pense que s'il est là, on sera content. J'étais tout à l'heure avec des gens qui me disaient, « Ah ben, on a notre belle-fille, elle fréquente aussi une assemblée. » Alors, j'ai dit à ma belle-fille, « Mais ça te sert à quoi ? Parce que tu es méchante avec nous. » Ben, le fruit de l'esprit, hein. Que Christ vive en nous, qu'on nous reconnaisse pour avoir été avec Jésus, mais pas pour avoir été à l'église des tubes. C'est pas ça le but. C'est que Christ soit là et qu'il soit vu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.